J'ai au bout du téléphone avec moi Monsieur Maxime Boucher, qui est responsable des communications au niveau de la CNESST. On va revenir sur, malheureusement, cet événement tragique qui est survenu dans les derniers jours du côté de la Beauce. Ce jeune homme de 14 ans qui est malheureusement décédé, qui était coincé sur un chariot élévateur. Et là, on voit toute l'importance de l'accueil des jeunes en milieu de travail et l'importance de la formation. Alors, pour nous parler cet après-midi, M. Boucher, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien.
Ça va bien vous-même?
Oui.
Excellent. Comme on s'était parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, je voulais savoir l'accueil, justement, l'importance d'accueillir ces jeunes-là. J'imagine que c'est très important au niveau de la CNESST.
Ben, non seulement c'est important, mais de deux, c'est une obligation que l'employeur de bien accueillir ces nouveaux travailleurs. Donc, c'est des jeunes, mais aussi là, des moins jeunes. Donc, tout nouvel employé là, qui entre en fonction. Donc, ça fait partie de ses devoirs qu'il doit faire. Donc, planifier adéquatement l'entrée en fonction là, de ces nouveaux travailleurs, là, incluant là, évidemment les notions de santé et de sécurité du travail.
Est-ce qu'il y a un minimum de temps alloué pour une formation, justement, pour un nouvel employé, ou ça change d'un milieu à l'autre?
Ben, en fait, ça va changer d'un milieu à l'autre. Là, le plan de formation est lié aux tâches qui devront être accomplies par le travailleur. Donc ça, c'est un peu le message qu'on envoie aussi là, au fil des années. Là, les jeunes travailleurs, c'est une priorité là, d'action au niveau de la CNESST. On a intensifié là, ces dernières années là, nos efforts en ce sens-là. Et souvent, ce qu'on envoie comme message aux employeurs, c'est que c'est pas obligé d'être le guide ou le cartable de 1000 pages là, pour bien accueillir un nouvel employé. Souvent, c'est des choses qui peuvent être très simples, mais qu'il faut prendre le temps de le faire. On sait qu'on est souvent dans un contexte, là, surtout bon, en période estivale, des fois l'arrivée plus massive d'étudiants, de nouveaux travailleurs. On est submergé là, par les tâches, mais c'est un incontournable. Il faut bien planifier cet accueil-là. Et ben, ça prend souvent la forme là, vraiment là, du tour des tâches qui vont être assignées à l'employé. Donc, quels sont les risques qui sont associés à ces tâches-là? Quelles sont les règles entourant cette tâche-là? Les équipements de protection individuelle qu'il faut porter? À qui je peux me référer si j'ai des questions? Parce que ça, d'un côté, on a l'employeur qui doit de manière légale là, accueillir, avoir un plan d'accueil dans son milieu de travail, mais le travailleur doit aussi, il y a certaines obligations, de respecter ces règles-là, mais de deux aussi, c'est le message de nos dernières campagnes de sensibilisation auprès des jeunes travailleurs, de ne pas hésiter, de ne jamais hésiter à poser des questions. On sait souvent que les jeunes peuvent avoir veulent bien paraître dans les premiers temps dans un nouvel emploi, veulent se montrer autonomes, mais il faut s'arrêter, puis il faut que le travailleur, s'il sent qu'il y a un risque, pose les bonnes questions. Donc, en ce sens-là, le petit plan d'accueil que peut avoir un employeur, ça peut aussi être à qui je me réfère. Est-ce qu'il y a du compagnonnage, par exemple, avec un travailleur plus expérimenté qui peut se faire? Donc, c'est une multitude là, de façons de faire, de guides et aussi de formations qui peuvent être données là, dès l'entrée en fonction.
Parfait. Et justement, malheureusement, c'est arrivé. De ce qu'on en comprend pour ce jeune-là, c'est qu'il était probablement au volant d'un chariot élévateur. C'est quoi l'âge minimum habituellement pour conduire ces chariots élévateurs-là?
Ben, effectivement, là, dans ce cas-ci, là, les informations, là, notre collègue d'information, notre travail d'enquête ne fait que débuter, là. Ouais. Mais a priori, là, il a été effectivement, là, le travailleur a été renversé, il a été écrasé lorsque le véhicule s'est renversé. Ce qu'on a au règlement de la santé, de la sécurité du travail, là, c'est que il faut d'abord avoir une formation pour opérer ce type de véhicule-là. Donc, il doit avoir on doit délivrer une carte de compétences pour utiliser un lift comme on dit, un chariot élévateur, oui. Mais aussi il faut avoir 16 ans et plus.
C'est 16 ans, oui.
Oui, c'est 16 ans qui est un travailleur en temps normal, là, c'est ça, donc au sens de la loi, au niveau des normes du travail. Là, évidemment, un travailleur a le droit de travailler lorsqu'il est étudiant. Ça doit pas nuire, si on veut. Ça doit pas être sur les heures là, de son parcours scolaire, là, à moins qu'il ne serait plus là, aux études là, à 16 ans et plus. Là, et il y a certains cas qu'on se retrouve dans cette situation-là, mais si tant que le jeune est aux études, ça doit pas venir avoir un impact là, sur son parcours scolaire académique. Et aussi, ce qu'on a au sens de la loi, c'est si le travailleur devait avoir 14 ans et moins, ben là, c'est une autorisation parentale. Donc, c'est ce qu'on a là, au niveau, là, sans entrer dans tous les détails de la loi sur les normes, mais c'est ce qu'on a là, autour des travailleurs adolescents là, qu'on, dans un milieu de travail.
Et si on avait signé, exemple, là, tu parles de ça, d'une autorisation parentale pour le jeune de 14 ans, que ses parents, lui, auraient signé comme quoi il avait le droit de prendre la formation de conduite d'un chariot élévateur, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu arriver? Est-ce que c'est légal?
Oui, ben là, je parle pas du cas particulier. Il faut savoir que j'étais vraiment de manière générale, mais dans un travailleur qui aurait moins de 14 ans doit avoir une autorisation parentale, ça n'empêche pas là, l'application légale de certains règlements, là, comme celui qu'on a mentionné au niveau là, de la santé, de la sécurité du travail, pour opérer un chariot élévateur. Là, et c'est pour avoir la formation, non seulement il faut avoir 16 ans. Là.
OK, c'est vraiment ça.
Mais ça revient aux notions, c'est ça. Donc, en tout temps que ce soit un chariot élévateur, que ce soit différentes tâches ou équipements qu'un jeune travailleur doit prendre, c'est de s'assurer qu'il y a la formation adéquate aussi, qu'ils savent comment se servir des différents outils, quels sont les équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés. Donc, il faut faire, sans revenir là, sur cet incident-là précis, mais il faut faire un survol des tâches, puis ça, c'est indispensable et c'est le message qu'on envoie aux employeurs là, ces dernières années. Là. Parce que, il arrive encore beaucoup d'accidents à des jeunes travailleurs. Le bilan s'est amélioré au fil des années, mais donc c'est en moyenne une trentaine de jeunes qui se blessent par jour. Pas nécessairement des accidents très graves, mais c'est encore une trentaine. Donc, c'est environ là, 11 500 les accidents par année là, qui surviennent à chaque année à des jeunes. Par jeune, nous, on entend des travailleurs de 24 ans et moins. Là. Il y a quand même 6 décès. Donc, il y a encore du travail à faire, justement. On pense que c'est en martelant le message de l'importance de bien accueillir ces jeunes-là qu'on va améliorer le bilan au fil du temps.
Parfait. Et une formation de chariot élévateur comme ça, ça prend combien de temps avant d'obtenir un permis?
Ah, c'est vraiment pas très long, là, en temps normal. Je pense que c'est une formation qui est relativement courte, là. Il y a plusieurs formateurs accrédités. Des fois, il y a des associations sectorielles paritaires qui peuvent donner ce type de formation-là. Je pense que c'est quelques heures, là, à peine, là, mais il faut, dans un milieu de travail, lorsqu'un inspecteur se présente, là, peu importe l'âge de la personne, là, et on peut exiger, là, de voir s'il a les compétences requises pour manœuvrer un chariot élévateur. Donc, c'est indispensable là, de détenir cette formation-là, que ce soit dans un entrepôt, dans une cour intérieure, et même pour de petites manœuvres, là, par exemple sur les palettiers, aller chercher des trucs qui sont entreposés. Donc, ça prend là, cette manœuvre-là. Puis souvent, c'est un peu le message qu'on envoie aussi. Les jeunes peuvent voir, ou l'employeur peut voir que peu de risques, mais en fait, dès qu'on est en présence quand même d'équipements, d'outils, que ce soit un chariot élévateur ou un coupe-bordure, même une tondeuse, donc tu sais, ça peut paraître banal, mais c'est de faire le tour quand même de chacun des outils, puis de pas minimiser les risques qui peuvent y être associés, là, même si on peut penser là, qu'il arrive jamais d'accident avec un coupe-bordure. Non, c'est pas vrai. Ça se peut que le jeune n'ait pas les bonnes techniques pour la manœuvrer. Donc, il faut vraiment s'assurer là, de bien l'accueillir, bien l'encadrer avec l'utilisation de ces outils-là.
Comme on dit, un accident est si vite arrivé. Hein?
Tous les accidents sont évitables. Donc, il y a du travail. Il faut continuer notre travail. Puis on sait que, là, comme je disais, je disais qu'on était à 11 500 environ d'accidents. Tu sais, le bilan s'est amélioré. Au début des années 2000, on était à 24 000 de jeunes qui se blessaient, de 24 ans et moins, là, qui se blessaient au travail. Donc oui, le portrait s'est amélioré, mais encore, on veut améliorer ce portrait-là, mais on sait que les jeunes travailleurs, nouveaux travailleurs, là, ben, je dis jeunes, mais des fois, ils peuvent être plus âgés quand même, là. Ils sont plus à risque, là. On se le cachera pas, là. Ils sont sujets à des contraintes un peu plus physiques. L'organisation du travail, ils peuvent travailler sur des horaires différents. Des fois, ils peuvent même cumuler plus d'un emploi, là, des jeunes. On voit ça. Mm-hmm. Donc oui, ils sont quand même exposés à un plus grand risque. Puis souvent, mais ils arrivent de manière, comme je le disais un peu plus tôt, ils arrivent de manière un peu plus massive à un certain moment de l'année. Et c'est souvent dans les tout premiers mois du nouvel emploi que les accidents surviennent un peu plus.
Parfait. Là, vous me disiez que vous étiez en enquête présentement. Ça, c'est la CNESST qui s'occupe de faire l'enquête sur le chantier,
dans l'établissement.
Dans l'établissement, ben,
oui, tout à fait. Lorsque survient un accident mortel comme celui-là, là, peu importe, partout au Québec, on a des inspecteurs là, qui sont dépêchés sur les lieux et qui débutent une enquête. Donc, c'est un processus qui est quand même assez approfondi. Là, c'est-à-dire qu'on va aller colliger là, toutes les informations, récolter des témoignages, voir les témoins oculaires et s'informer là, des méthodes et des... qui est en place avec l'employeur. Donc, c'est un travail assez rigoureux. Puis après ça, on vient valider là, certaines hypothèses en lien avec les causes. Puis généralement, c'est un travail qui s'échelonne sur une durée de 6 mois là, environ pour arriver avec les causes plus exactes là, de l'accident. Donc, c'est le travail là, qui est généralement fait lorsque survient un accident mortel. Mais sinon, au quotidien, nos inspecteurs interviennent et font des interventions. Mais ça prend pas la forme de rapport d'enquête, mais ils font des interventions là, au quotidien pour s'assurer de la prise en charge des risques dans les milieux de travail.
Et pas seulement dans ce cas-ci, mais dans plein d'autres cas, quand il arrive un événement comme ça, et on a fait notre enquête et tout ça, et on voit que finalement, c'est peut-être l'employeur qui avait une part de responsabilité là-dedans. Quel type de sanctions la compagnie peut avoir à ce moment-là?
Oui, ben là, il y a effectivement deux choses. Il y a effectivement la CNESST applique différentes lois, dont la loi sur la santé et la sécurité du travail, si au terme de l'enquête, les procureurs de la CNESST estiment que la preuve est suffisante pour montrer que le travailleur avait compromis la santé et la sécurité de ses travailleurs, ben il est possible qu'il y ait une amende là qui soit déposée là auprès de l'employeur. Donc ça peut varier là, selon les différents articles de loi. Là, donc mais ça peut aller jusqu'à autour de 70 000 là, par exemple pour un accident mortel. Mais donc c'est ça, c'est des possibilités là, qui sont possibles là, lorsque survient un accident. Mais d'abord et avant tout, au-delà de l'amende, là, on sait que les impacts sont souvent grands sur un milieu de travail lorsque survient un accident. Ça affecte tout le monde dans le milieu de travail. Donc, ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est que les méthodes, les équipements soient corrigés pour éviter que ça se répète. Donc, c'est le but premier de nos enquêtes, de les faire rayonner aussi, non seulement pour le milieu, d'autres pour des milieux qui sont similaires. Parce que oui, les impacts sociaux d'un accident de son grand, évidemment pour la famille, mais pour le milieu de travail lui-même là aussi, là, les employeurs ne veulent jamais que survienne un accident grave dans leur milieu. Là, donc il y a c'est souvent ça là, qu'on observe. Là, donc il y a souvent une bonne collaboration du milieu en dépit là, du triste événement qui est survenu. Là.
Parfait. Et en terminant, je change un peu d'ordre d'idée.
Oui.
J'imagine que du côté de la CNESST, avec tout le déconfinement et la fameuse trousse, j'imagine que vous êtes assez occupé ces temps-ci.
Ben oui, tout à fait, vous avez raison. C'est un nouveau risque, ça prend de l'adaptation, parce que, évidemment, les milieux encore là, les milieux de travail... les milieux de travail se prennent en main, mais c'est sûr que ça nécessite d'adaptation parce que c'est pas un risque c'est un risque qui est nouveau là, de gérer ce risque-là biologique. Mais effectivement, on les invite, là, tout dépendant de leur secteur d'activité. On en a près d'une vingtaine là, en fonction des différents secteurs d'activité, là, des trousses avec des listes de vérification spécifiques. Donc, c'est un amalgame là, de mesures, les mesures qu'on connaît, donc la distanciation, le nettoyage, mais aussi des listes spécifiques selon le secteur dans lequel on est établi, là, par exemple les restaurants, les commerces de détail. Donc, on a invité les employeurs à consulter ces fiches-là. Puis la CNESST est effectivement là pour répondre à leurs questions en mode accompagnement. On a fait quand même beaucoup d'interventions à venir jusqu'ici, là, partout au Québec. Là.
Mais merci, M. Boucher, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions cet après-midi.
Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
Bonne journée, au revoir.